Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la tragédie de la Terre de Sophocle à Sri Aurobindo, traduction de son nom. Il a écrit directement, c'est Satprem qui a reçu cette vision d'écrire la tragédie de la Terre à travers Sri Aurobindo. Alors je vais aujourd'hui commencer par une immense révolution. Le paradoxe divin est le titre « Aux ténèbres fécondes ». Nous sommes en 1919 encore, 17 ans plus tard, en 1936, Sri Aurobindo écrivait dans un poème « C'est là qu'il cachait le mieux son cœur et son travail dans un monde qui ne le comprenait guère. » On pourrait dire « Oh, c'est de la poésie », mais pour les Grecs, « poien », c'est « faire ». Alors, je vais vous lire un poème de Sri Aurobindo. « J'ai creusé longtemps profond, dans une horreur de fange et de boue, un passage pour la chanson d'une rivière d'or, une demeure pour le feu immortel. J'ai labouré et peiné dans la nuit de la matière pour apporter le feu aux hommes. La nuit et la mêlée m'entourent, car les lampes que les hommes appellent soleil sont des lueurs à mi-chemin. Jetées sur cette vie trébuchante par les immortels, l'homme allume sa petite chandelle d'espoir qui conduit à un bord défaillant, un fragment de la vérité et tout son horizon, un mince logis, tout son voyage. Il craigne et nie la vérité des vérités. Ils refusent la lumière des lumières. Leur cri s'élève vers des dieux ignorants où ils choisissent l'autel d'un démon. Tout ce qui avait été trouvé est à trouver encore. Chaque ennemi vaincu revit encore. Chaque bataille gagnée est à livrer encore et encore. À travers des immensités de vie futile, mes plaies béantes sont mille et une. Une voix a crié, va où nul n'est allé, creuse encore, creuse plus profond, jusqu'à ce que tu touches l'inexérable roc du fond. Et frappe à la porte sans clé. J'ai vu un mensonge profondément planté à la racine des choses, là où le sphinx gris garde l'énigme du sommeil de Dieu. J'ai quitté la surface des dieux du mental et les mers insatisfaisantes de la vie. Et plongé par les allées aveugles du corps jusqu'aux mystères infernaux. J'ai creusé dans le terrible cœur muet de la terre et entendu les cloches de sa messe noire. J'ai vu la source d'où partent toutes ces agonies et la raison profonde de l'enfer. J'ai percé le vide où la pensée est née. J'ai marché dans le trou sans fond. Mes pas ont taillé des marches désespérées pour apporter les feux de la splendeur de Dieu dans les abysses humaines. Tous les voiles se brise maintenant. Un pont est jeté entre les abîmes et les sommets, et le torrent des eaux d'or a roulé. Alors, c'est un poème de Sri Aurobindo. Voilà. Alors, je continue. Les impatientes forces en fusion. Mais les hommes ne savent pas encore ce qui se passe, ni quel miracle se prépare, ni quel feu brûle en eux pour renaître et mourir à leur vieux monde, ni quelle loi va s'emparer de leur matière. Nous sommes encore 1919 et les vieux dieux s'apprêtent à transmigrer. Les alliés victorieux se préparent à bâtir la Société des Nations à Genève avant leur prochaine cathédrale des Nations Unies à New York. Inlassable, Sri Aurobindo tente de dire « Il y a 200 lecteurs, ou plutôt il cherche 200 lecteurs en France, oui en France, pour sa nouvelle revue Aria. » Alors voilà ce qu'il écrit. Une guerre s'est terminée. Un monde a péri dans le domaine de la pensée et a commencé à disparaître dans l'ordre de la nature extérieure. Déjà commence une nouvelle guerre et la vieille guerre continue sous une autre forme. Dans cette lutte, la question se pose pour l'homme pensant, quel pouvoir ou quelle puissance exprime leur volonté ou leur conflit à travers ces bouleversements? Et nous, quel pouvoir ou quelle puissance servirons-nous? À quelle chose intérieure ou surhumaine prêterons-nous obéissance? Puisque les trônes et les systèmes extérieurs sont balayés comme des feuilles mortes sous la tempête du temps qui souffle. Quoi ou qui mettrons-nous sur le trône? Il y a quelque chose de plus grand que nos pensées et nos désirs, quelque chose de plus constant, de plus insistant, qui dure et grandit par-delà ces changements. Et pourtant, grâce à eux, s'il n'y avait pas que ce quelque chose, tout cet effort humain serait seulement une vaine turbulence. Et la vie de l'homme, seulement la routine affairée d'une ruche ou d'une fourmilière à une plus vaste échelle avec davantage de souffrances inutiles et moins d'économie et de sagesse. Vaine sera la construction mécanique de l'unité si l'unité n'est point dans le cœur de la race, si elle est seulement un moyen d'organiser et de sauver nos intérêts. Alors, je vais relire parce que c'est fantastique. Vaine sera une construction mécanique de l'unité. Si l'unité n'est pas dans le cœur de la race humaine, si elle est seulement un moyen d'organiser et de sauver ses intérêts, alors le résultat sera, comme il l'était déjà dans le passé immédiat, une lutte plus féroce et un nouveau déchaînement de révolution et d'anarchie. Et Sri Aurobindo ajoute ceci, qui restera vrai 75 ans plus tard. Une liberté mécanique accrue, prodiguée généreusement ou distribuée comme une aumône selon les nécessités, les intérêts et les calculs des forces du vieux monde toujours debout, un nouveau système de barrages pour empêcher une nouvelle avance de l'inondation a peu de chances de mettre fin au cataclysme. Même si celle quelque sagacité à courte vue arrivait à bâtir une digue pour un temps par l'effort combiné de nos égoïsmes organisés et fortunés, ce ne serait encore qu'une pause artificielle aboutissant à un nouveau bouleversement dans un avenir peu lointain, une futile tentative pour tricher la destinée. Cette destinée, mais nous, quelle arme avons-nous au milieu de tous ces gardiens de la paix qui sont des gardiens de la guerre et des pilleurs de la terre? Prophétiquement, à l'autre bout des siècles, Sophocle mettait dans la bouche de cette même brute Créon, dans Antigone, « Jamais n'a grandi dans les hommes pire institution que l'argent. C'est l'argent qui détruit les États. C'est lui qui chasse les citoyens de leur maison. C'est lui dont les leçons vont séduisant les cœurs honnêtes et leur font embrasser l'infamie. Il leur enseigne tous les crimes, il leur apprend l'impiété qui ose tout. Mais celui qui se vend et en arrive là, un beau jour aussi, aboutit au châtiment. » La scène n'a pas changé depuis 25 siècles et l'on se dit que c'est tout qu'il faudrait châtier. Et depuis ces 25 siècles, nous n'avons pas compris cette destinée, parce que nous avons vu seulement la destinée d'un individu ou d'une nation ou d'une petite paroisse. Nous avons vu des bons, des méchants, des fidèles, des infidèles, des pécheurs, des saints, et les autres de vilains Russes, des Allemands et les autres, et encore quelques vilains de demain. On n'en finirait pas de châtier tous ces vilains et de les excommunier de notre petite église. On recommence. Mais c'est tout qui est pareillement vilain ou pareillement bon vilain. C'est une totale ambiguïté humaine. Comme disait Sri Aurobindo, avec son merveilleux humour, le sens de la vertu nous aide à chérir en secret nos péchés. Alors, nos nouveaux gardiens de la paix gardent très bien la guerre, comme nos papes divers gardent très bien leurs pécheurs. Et que feraient-ils s'il n'y avait plus d'enfer? On pourrait entendre encore le cri de Sophocle et sa profonde peine lorsque le cœur d'Antigone psalmodiait sous son masque. Il remonte loin les mots que je vois sous les toits de l'Abdacide. Et c'est le toit des hommes, de tout ce paquet humain là, qui se débat dans les nuits. Et nous ne comprenons rien à notre destinée ambiguë, comme les oracles de Delphes qui poussent ici pour aller là, comme Athéna pousse Ajax dans sa folie, qui pousse toute cette famille humaine dans son filet de mort, et toute cette race contre cette autre, et ses voyants contre ses autres. Mais il n'y a pas d'autres. Il y a tout de même un paquet humain en noir et en blanc. Il y a une totalité de la terre qui va, poussée par Athéna, qui va son implacable chemin pour extirper de cette sublime maudite espèce, comme elle poussait d'autres vieilles espèces à sortir de leur marécage nauséabond pour respirer un autre air. Et c'est cruel tant que ça dure. Mais il fallait bien, et il faut bien sortir de cette interminable évolution nocturne. Ces vieilles entrailles d'énormes rêves calamiteux roulés comme une larve dans la nuit. S'écriait Sri Aurobindo dans un ancien poème de 1907 où Poséidon, le dieu des mers, s'adressait à Athéna. Alors aujourd'hui, je termine la tragédie de la Terre de Sophocle à Sri Aurobindo, écrit par Satprem. Le titre, c'est le paradoxe divin. Et le chapitre, une immense révolution. Voilà. Alors, je remercie Sri Aurobindo et Douce-Mère pour cette merveilleuse lecture de la tragédie de la Terre qui contient une connaissance absolument merveilleuse depuis le début peut-être de la Terre. Merci Priya, Ganga Lakshmi, Savitri Bhavan, House of Mother Ajanda. Thank you.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dome.